France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Samedi 20 novembre 2021, dans l'après-midi, un chasseur âgé de 70 ans a fait feu à deux reprises sur Caramel. L'ours a été abattu illégalement dans le massif du Couserin, laissant donc deux oursons orphelins en plein début de l'hiver. Déjà, dans l'année 2020, trois ours adultes ont été tués dans les zones dites protégées des Pyrénées. De plus, la mère de Caramel, Melba, avait été tuée en 1997, et encore le 9 juin 2020, un jeune ours mâle, Gribouille, a été retrouvé tué par balle. En novembre 2004, le dernier ours des Pyrénées, Canel, avait trouvé la mort tué par un chasseur en vallée d'Aspe. Le chasseur qui avait abattu l'animal a bénéficié d'un classement sans suite de l'affaire. Pourtant, c'est après sa mort que le gouvernement a mis en place son plan de renforcement des populations d'ours bruns dans les Pyrénées. Il ne restait fin 2004 moins d'une dizaine de mâles dans toutes les Pyrénées et plus aucune femelle. Grâce à des mesures drastiques, la population renforcée aujourd'hui compte environ une soixantaine d'ours si on compte tous les jeunes oursons des deux côtés des Pyrénées. Mais voilà que les réintroductions d'ours slovènes, qui devaient renforcer la population ursine de notre côté des Pyrénées, continuent de faire polémique. Il est vrai qu'ici, un chasseur a été blessé lors d'une battue au sanglier. C'est-à-dire que l'ours, qui a été pris au piège avec ses oursons dans la nasse des chasseurs, a simplement chargé désespérément. Qui donc était alors attaqué ? Dans le même temps, durant l'année 2020, au moins 23 randonneurs ont été blessés grièvement et un même tué par des bovins en estive. Pourtant, personne n'appelle à éliminer toutes les vaches en liberté dans la montagne. Alors, pourquoi l'ours est-il considéré comme une bête à abattre ? L'ours, heureusement, occupe encore de nombreux pays à travers le monde. Russie, USA, Europe du Sud et du Nord. Mais il représente le dernier grand prédateur sauvage de notre hémisphère. Qui est-il ? En fait, ce rescapé des âges farouches a toujours subi le pire. Même si les montreurs d'ours sont maintenant disparus, l'animal reste encore un des plus fascinants prédateurs de France. Ce n'est cependant pas un chasseur lui-même. Il attaque peu les moutons. Et le nombre infinitésimal d'ours rend les agressions vraiment marginales. De plus, l'ours promène sa bonhomie dans les zones les plus reculées de nos montagnes, dégustant des myrtilles et autres baies sucrées. Alors que se passe-t-il ? Faut-il que la montagne soit désertée par les derniers grands prédateurs pour sauver l'élevage et le tourisme ? Comme nous sommes sur Radio Libertaire, nous sommes si proches de ces sources mal léchées, alors nous allons essayer de les comprendre.
J'ai vendu la peau ma mère, elle ne valait pas bien lourd. Avant de l'avoir piégée, misère, avant de l'avoir touchée, j'ai vendu la peau de l'ours, ma mère, sans caresser son velours, sans l'avoir déshabillée, cher, sans même lui faire l'amour. C'est ainsi que bien souvent on pense avoir tout entre les mains. Si du pot au lait on lâche lance, café noir le lendemain. Il arrive que les ours se vengent d'avoir été convoités. Il est évident que ça les dérange de nous voir anticiper. J'ai vendu la peau de l'ours, ma mère, elle ne valait pas bien lourd. Avant de l'avoir piégée, misère, avant de l'avoir touchée, j'ai vendu la peau de l'ours, ma mère, sans caresser son velours, sans l'avoir déshabillée, peu cher, sans même lui faire l'amour. Partir de là, c'est l'engrenage, voici qu'on vend pour de vrai. Mes nouvelles chansons, c'est l'usage, faut éveiller l'intérêt. Et pendant ce temps, moi je me ronge devant mon bout de papier. J'en perds l'appétit, j'en perds le songe, je n'ai rien à proposer. J'ai vendu la peau de l'ours, ma mère, elle ne valait pas bien lourd. Avant de l'avoir piégée, misère, avant de l'avoir touchée, j'ai vendu la peau de l'ours, ma mère, sans caresser son velours, sans l'avoir déshabillée, chère, sans même lui faire l'amour. Même en supposant que la panique me décoince le cerveau, que j'ai fait les chansons de mon disque et que je le trouve beau, vous les chantant, je réitère un optimisme anormal. Car en présumant qu'elles vont vous plaire, je vous solde l'animal. Je vendrai la peau de l'ours, ma mère, on la vend chacun son tour. Ce n'est pas pour se vanter, misère, c'est pour la publicité. Je vendrai la peau de l'ours, ma mère, mais regretterai toujours de l'avoir laissé filer, peu cher, sans même lui faire l'amour, sans même lui faire l'amour, sans même lui faire l'amour.
C'était La peau de l'ours par Anne Sylvestre. Bonjour à toutes et tous sur 89.4 et sur internet Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, science en liberté. Aujourd'hui, le passé des ours et leur avenir. Alors Thierry, il s'agit d'un animal phare de la faune d'Europe. L'ours est donc un rescapé d'une longue préhistoire.
Oh oui, Siona. Nous allons comprendre ici que l'extinction de la biodiversité n'est plus une menace, mais que c'est déjà un processus bien installé. Partout, les faunes sont confinées à de tout petits effectifs dans des zones très restreintes. Un calcul sur les distributions de la biomasse de la planète a évalué qu'il ne restait plus que 5% des animaux sauvages dans le monde.
Et c'est peu. Quand on parle d'ours, cela renvoie à notre enfance, la douce peluche, mais aussi un super prédateur.
Où tu as bien une tête à t'occuper de peluche. Le lion ou l'ours blanc sont en effet des super prédateurs. Mais les autres ours sont plutôt des prédateurs modérés. Parce qu'ils ont soit un régime très spécialisé, comme le panda qui se nourrit que de bambou, ou bien ils sont omnivores comme la plupart des ours, incluant 50-70% de végétaux dans leur alimentation par exemple.
Combien d'espèces d'ours dans le monde ?
Alors d'après mes recherches, il existe 8 espèces d'ours dans le monde. Elles sont presque toutes menacées. Les ours sont des mammifères de la famille des ursidés, et donc ce sont des carnivores. C'est l'ordre zoologique des carnivores. Mais ils ne sont pas tout à fait carnivores. Alors, il y a les espèces d'ours comme le panda géant, l'ours malais, l'ours noir d'Asie, l'ours lipu, l'ours polaire, l'ours brun, l'ours andin et l'ours noir américain. En fait, les Ursidés sont une famille dont l'évolution a été très tardive. Ils ont tous un ancêtre commun avec les canidés, c'est-à-dire les chiens, et avec les mustélidés, c'est-à-dire les belettes. Ils sont justement entre les deux. Mais ils partagent aussi quelques caractères avec les pinnipèdes, qui c'est un autre groupe, les phoques et otaries, c'est un autre groupe. L'ancêtre des mustélidés et des pinnipèdes a en fait divergé de celui des ours il y a à peu près 30 millions d'années. Les témoignages fossiles et l'analyse de leur ADN ont montré que l'ours blanc et l'ours brun ont divergé seulement il y a 200 000 ans.
Commençons donc par la plus petite espèce, l'ours malais.
Oui, l'ours malais, c'est la plus petite espèce d'ours au monde. On l'appelle aussi l'ours des cocotiers ou l'ours du soleil. Alors, il mesure 1 mètre, 1,40 m avec un poids de 25 kg pour les femelles les plus petites, mais les mâles peuvent atteindre jusqu'à 80 kg. La hauteur au garrot ne dépasse pas plus de 60 cm. On voit que c'est quand même tout petit. Hein. Et puis, à la différence de ses cousins, les poils de la toison, noirs, parfois brunes, sont très foncés et ils sont très courts. Sa tête massive est aplatie sur le dessus et il y a surtout une tache brun-orangé en forme de croissant sur la poitrine. Ses pattes ont des griffes très très longues qui sont recourbées et qui lui permettent de grimper aisément dans les arbres où il passe souvent la plupart de son temps. Sa longévité, ça atteint 15 à 20 ans, mais on a fait ses calculs en captivité. Alors c'est un ours malais qui a été classé comme vulnérable parce que les populations sont toutes en décroissance. Mais en fait, on a quand même très peu de données, on sait très peu de choses sur lui. Le co-président de l'équipe d'experts sur l'ours malais du groupe UICN a déclaré « Nous estimons que les ours malais ont diminué d'au moins 30% au cours de ces 30 dernières années, c'est-à-dire en moins de 3 générations. » Alors c'est surtout la déforestation qui réduit la superficie et la qualité de leur habitat, parce que là où l'habitat est encore protégé, le seul problème vrai, c'est le braconnage commercial. Car là où l'habitat est toujours protégé, le braconnage commercial reste une des menaces les plus significatives. Mais il sera quand même très difficile d'empêcher l'extinction parce que les ours malais existent en toute petite population et elles sont désormais isolées dans des petites régions de l'Asie du Sud-Est.
Ce petit ours est-il plus carnivore que les autres ? Quel est son habitat en fait ?
C'est un petit ours qu'on trouve dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Il est souvent dans les arbres, il construit des amas de branches de feuillage pour dormir, hein, comme un nid pour les gorilles. Et comme son nom l'évoque, l'ours des cocotiers est le plus arboricole des ursidés, mais c'est aussi la base de son alimentation qu'il complète avec du miel, des insectes et puis parfois des petits reptiles.
Quel est donc son mode de reproduction ?
Alors comme beaucoup d'animaux tropicaux, l'ours malais se reproduit en général toute l'année. La femelle donne naissance généralement à un ou deux oursons, mais la gestation dure déjà 3 mois, et surtout les oursons ne sont matures qu'au bout de 3 ans. Donc ce sont des données en milieu naturel partielles, mais ça nous donne l'idée que les ours malais se reproduisent lentement.
Après, toujours en Asie, nous retrouvons un autre ours méconnu, l'ours lipu.
Alors effectivement, l'ours lipu vit en Inde, et il est aussi appelé ours à miel, ours paresseux, ou même prochile lipu quand on veut faire de grandes phrases. C'est un ours trapu avec des très longues lèvres qui mesure 1,80 m, 85 cm au garrot et pèse en moyenne entre 55 et 140 kg. C'est donc 2 fois plus gros que l'ours malais, hein, c'est quand même pas négligeable. Sa fourrure est noire, parfois elle est rouge ou brunâtre, surtout dans le sud de l'Inde d'ailleurs. Elle est longue et très fournie. Et elle a une marque beige en forme de croissant de lune sur la poitrine. On ne sait pas trop à quoi sert ce croissant, à part à se reconnaître peut-être. En tout cas, la longueur exceptionnelle de ses poils le distingue de tous les autres ours. Il possède vraiment des poils très très longs et on voit vraiment l'animal. On voit d'abord son poil et son poil long quand on le voit de loin. Alors, il a évidemment aussi des longues griffes recourbées, comme beaucoup d'ours, mais ça lui permet lui de se suspendre aux arbres, même la tête en bas. C'est d'ailleurs à cause de cette position qu'on l'appelle aussi ours paresseux.
Et que savons-nous de ces populations et de ces mœurs ?
Les ours lipus vivent donc dans le sous-continent indien, avec une perte d'habitat très importante, à cause notamment des plantations de thé. Ils ont trouvé refuge dans les réserves qui ont été créées pour protéger les tigres, mais il est classé vulnérable. Alors il y aurait peut-être 7000 individus à l'état sauvage, répartis entre l'Inde et puis surtout au Sri Lanka. Les populations survivront peut-être aux frontières du Népal, on ne sait pas trop. On pense maintenant que l'espèce a complètement disparu du Bangladesh, il y a à peine 10 ans. L'ours lipu fréquente les forêts sèches, les forêts humides, les prairies de basse altitude, un peu partout. Alors bien sûr, il a des ennemis naturels comme les tigres et les léopards, mais le principal responsable de son déclin, c'est vraiment l'humain. La déforestation notamment, qui a changé le Sri Lanka. Il faut pas oublier qu'il y a près de 2 millions d'hectares de forêts qui ont été rasés entre 56 et 83. Alors évidemment, quelques centaines d'individus pourraient y subsister. Et puis surtout, il y a le problème du braconnage sur les ours qui affecte gravement les effectifs de l'espèce. En fait, on vend ses organes génitaux, ses os, ses griffes, tout ça pour de la médecine locale qui font donc l'objet d'un marché noir.
Ah oui, pas simple. Donc, de quoi se nourrit cet ours ?
L'ours lipu. Alors l'ours lipu, il se nourrit principalement d'insectes, il n'a pas d'incisive. Donc il consomme plutôt des termites, des fourmis, qu'il atteint grâce à son museau étroit, puis il a une grande langue qui lui permet de bien bouger, donc d'attraper toutes les fourmis et toutes les petites proies. Mais il complète tout ça par des œufs d'oiseaux, des larves, du miel, des charognes, des baies, du maïs ou encore de la canne à sucre. Il a une maturité sexuelle tardive, hein, pas avant 4 ans pour la femelle. Sa période d'accouplement varie selon le climat. En Inde, ça change quand même selon qu'il est en montagne ou dans le sud. Sa reproduction a lieu souvent en début d'été. Par contre, au Sri Lanka, il se reproduit toute l'année puisqu'on est plus bas en latitude. Donc, sa gestation dure entre 6 et 7 mois. Les naissances ont lieu donc de septembre à janvier. La portée a toujours 2 oursons, parfois 3. Alors les femelles transportent les petits sur leur dos pendant les premiers mois, ce qui est assez original chez les ours. Ça fait penser un peu aux grands fourmiliers d'Amérique. Les oursons demeurent près de leur mère jusqu'à 3 ans à peu près. Le mâle part un peu plus tôt. Mais par contre, le couple ne se coupe pas complètement. C'est-à-dire que le mâle et la femelle, bien qu'ils chassent de manière individuelle, peuvent se retrouver, y compris pendant l'éducation des oursons. Mais on ne sait pas s'il intervient dans l'éducation.
En Asie, nous trouvons aussi un autre ours très ressemblant, l'ours noir.
L'ours noir d'Asie, oui, qu'on appelle aussi ours à collier, toujours parce qu'il a un collier autour du cou blanc.
Ils ont beaucoup de colliers
dans ce coin du monde, oui, la plupart des ours ont des colliers. On verra qu'en Amérique, on en retrouve aussi. Le pelage de l'ours est donc noir, comme son nom l'indique, mais donc avec une marque blanche qui orne généralement tout le tour de son cou, d'où son nom, donc ours à collier. Il est classé vulnérable parce que sa population est en forte baisse. Alors, il avait une aire de répartition extrêmement vaste, hein, puisqu'on pouvait trouver des individus jusqu'en France et en Allemagne. Aujourd'hui, tous ces ours sont disparus, et la distribution se limite au continent asiatique, principalement d'ailleurs autour de la chaîne himalayenne. L'ours noir habite les forêts humides, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Il a une belle corpulence, hein, puisque c'est déjà un animal qui peut faire jusqu'à 150 kg, 1,80 m même, mais ça lui permet encore de grimper aux arbres avec cette taille-là. En hiver, il peut hiverner dans un tronc creux ou dans une caverne. Son régime alimentaire, c'est omnivore, complètement omnivore, des fruits, des racines, des tubercules, du miel, et puis de temps en temps, des petits vertébrés, des poissons et surtout des charognes. Mais comme le panda géant, il peut aussi consommer du bon goût.
Cette espèce est pourtant aussi victime de la barbarie des hommes.
Alors effectivement, l'ours à collier est connu pour être victime de braconnage et de la perte de son habitat, mais c'est surtout depuis le commerce qui entoure l'ours noir d'Asie, que d'ailleurs les autres ours sont aussi en danger. Commencé il y a 3000 ans, selon la médecine traditionnelle chinoise, on a commencé à arracher la bile qui aurait des vertus pour stimuler la virilité.
Voilà. Ah là là.
Donc ça soignerait les infections des œufs, ça supprimerait les hémorroïdes, des petites maladies stupides qu'on peut voir disparaître spontanément, mais c'est pour ça qu'on prélève la bile de l'ours. Alors attention, on ne le fait pas quand il est mort, on garde l'ours vivant, oh. On lui pose un cathéter qui est posé sur la vésicule biliaire, et cette vésicule, la bile est récoltée et vendue comme ce remède miracle. Alors on a parlé d'un petit commerce local, mais pas du tout. C'est un commerce quasiment industriel dans tous les pays du sud-est asiatique. Alors la Chine surtout, le Vietnam, la Corée, même le Japon. Il y a même des fermes qui conservent des milliers d'ours qui sont utilisés uniquement avec ce cathéter pour récolter cet extrait de leur foie. Une association à Hong Kong de défense des animaux estime qu'à Hong Kong seulement, il y aurait 60 000 fermes avec un total de 10 000 ours, et ça uniquement sur la Chine. Au Vietnam, il y a 2400 autres ours qui vivent aussi en captivité, de la même manière. En Thaïlande, il existe même des bars à ours, où les clients peuvent aller choisir l'animal dont sera extrait la bile. C'est un commerce qui est très prospère, et puisque 1 gramme de bile coûte en moyenne 170 euros. Mais en même temps, c'est une horreur absolue.
sans compter les infections, enfin les douleurs des espèces.
Les ours meurent forcément à la suite de ces prélèvements, puisque sans bile, ils digèrent beaucoup moins. Ah. Ils survivent donc moins longtemps, puis surtout, ils sont immobilisés pour ne plus bouger, quoi, pendant toute leur vie jusqu'à leur mort.
Et revenons quand même au panda, qui est une figure emblématique de la protection des espèces. Que se passe-t-il ?
Alors le panda géant, oui, on le connaît bien parce que c'est celui qui est sur le slogan du WWF et qu'on considère maintenant comme un véritable trésor chinois. Mais comme l'ours à collier, il a été exploité pour la bile de la même manière. Cela dit, il était déjà dans une catégorie très vulnérable à l'époque de son exploitation. Aujourd'hui, il semble que depuis sa protection totale, les populations soient un petit peu en augmentation. Alors, ce panda géant est un ours, en fait, qui est devenu l'emblème de la protection de l'environnement. Et l'espèce posséderait environ 1800 individus à l'état sauvage, principalement, bien sûr, dans le centre de la Chine, puisqu'ils ne vivent que dans les forêts montagneuses, riches en bambous, jusqu'à entre 1500 et 3000 mètres d'altitude.
Cette plante est essentielle pour le panda.
Oui, en effet, le bambou constitue 99% du régime alimentaire du panda. Un adulte peut donc consommer jusqu'à 25 kg de bambou quotidiennement. Et bien sûr, il y consacre la majorité de son activité. C'est-à-dire que quand on regarde un panda, pendant 14 heures par jour, il mange principalement du bambou. Il peut y avoir 1% d'œufs ou d'insectes qui soient associés. Alors, ce qui est remarquable, évidemment, c'est que l'évolution l'a doté d'un sixième doigt, en fait, sur les pattes antérieures. Si on compte ses doigts, on s'aperçoit qu'il a les cinq doigts, mais les cinq doigts posés comme ceux d'un ours, c'est-à-dire coincés sans pouce préhensible. Mais il a une excroissance de l'os du poignet, un petit os sésamoïde qui est venu petit à petit se renforcer pour lui permettre de cueillir et de décortiquer les lignes de bambou plus aisément. Il a donc un sixième doigt presque préhensile. Alors, le système digestif de l'animal, par contre, reste celui d'un ours à la base, donc d'un carnivore, et il digère très 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 mal le bambou, et notamment la cellulose qui est dans le bambou. On sait que c'est une espèce qui mesure 70 à 160 kilos, il peut vivre une quinzaine d'années, jusqu'à 25 ans en captivité, avec des individus qui vieillissent par contre très 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 mal en règle générale, avec beaucoup de problèmes de reins, tout ça. La croissance des populations, elle est surtout affectée par le faible taux de natalité. Ce sont des animaux qui se reproduisent peu, qui sont pas tellement fascinés non plus par la sexualité, et donc il y a à peu près un petit tous les 3 ans qui est élevé par sa mère et qui ne survit pas toujours.
Oui, c'est peu.
Alors le panda, il a été chassé, il a été piégé. Actuellement, les principales menaces sur l'espèce, c'est surtout la perte de son habitat et notamment la disparition des bambous. Parce que les forêts de bambous sont complètement réduites, non seulement au profit de l'agriculture ou de l'industrie du bambou, mais par ailleurs, il y a la culture du bambou se refait partout et donc elle est protégée des pandas. Et il faut, pour que le bambou fleurisse, à peu près un siècle pour fleurir et pour devenir comestible. Alors on voit un peu que la pression actuelle est évidemment beaucoup trop importante.
Les ursidés sont présents partout dans le monde. Et sur le continent sud-américain, nous avons aussi une espèce d'ours qui vit dans les Andes.
Oui, en Amérique du Sud, ça, c'est la seule espèce d'ours d'Amérique du Sud. Il s'agit de l'ours dit à lunettes. C'est un animal qui est endémique des Andes. Il vit à une altitude jusqu'à 5000 mètres. Il était considéré souvent par les Incas comme le médiateur entre les hommes et les dieux. Donc là, il est passé d'un statut de boisson médicale à un statut de dieu. On voit que les humains sont vraiment pas indifférents à l'ours. En tout cas, il a été très présent dans les mythologies locales. Il a été surnommé le jaguar noir, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un peu comme ça qu'on pourrait traduire le Quechua. Ou encore l'ours au front blanc. Bon, ça aussi, ça marche pas trop. Il est considéré comme l'une des espèces ursidées les plus primitives, parce qu'il possède beaucoup de caractéristiques communes avec les ancêtres préhistoriques des ursidés, notamment le fameux ours à face courte qui a disparu d'Amérique du Nord à la fin du Paléolithique. Son nom, ours à lunettes, provient des marques blanches qu'il possède sur la face. Donc ça forme comme des lunettes, c'est tout à fait étonnant. Et là encore, on a ce contraste blanc et noir qui apparaît chez ces vieux ours, ces ours très ancestraux. Il resterait 10 à 20 000 ours à lunettes qui vivraient en Amérique du Sud. Leur habitat de prédilection, c'est donc les forêts dites nébuleuses, vous savez, les forêts très très humides montagnardes qui reprennent l'eau et qui sont souvent envahies de nuages, qui reprennent l'eau des courants marins et qui sont souvent envahies de nuages et de brouillard pendant toute la journée. Elles sont extraordinairement humides. Il a une taille qui peut aller jusqu'à 2 mètres, avec un poids qui peut atteindre 175 kg, mais c'est le braconnage pour sa viande, mais aussi sa bile,
là
qui
aussi
a été une cause de disparition, bien sûr, exportée vers la médecine chinoise. Mmh. Donc cet animal sert, alors qu'il est en Amérique du Sud, il est vendu pour cela. Le braconnage est un véritable problème. Alors c'est vrai qu'il lui arrive de s'attaquer de temps en temps au bétail, et c'est à chaque fois ça qui justifie les représailles des hommes qui le tuent. Pourtant, c'est un animal qui consomme très peu de viande, puisque 95% de son régime alimentaire est fondé sur les plantes. Il mange des cactus, beaucoup de tubercules, de racines, de fruits. En fait, c'est un omnivore.
Et sur le continent nord-américain, nous trouvons un autre ours sans lunettes, lui, l'ours noir américain.
Oui, alors lui aussi, évidemment, il descend de l'ours à tête courte qui a disparu aux États-Unis au Paléolithique. Mais parmi les 8 espèces d'ours, il n'y a que l'ours noir américain qui se trouve en sécurité. Il a une répartition qui est du Canada aux États-Unis et jusqu'au Mexique. Ils sont à peu près au nombre de 900 000. Et ces ours noirs sont 2 fois plus nombreux que toutes les autres espèces d'ours réunies. Si on additionne tous les ours, on a 2 fois plus d'ours noirs. Alors, il a une chasse, hein, il est chassé aux États-Unis notamment, mais il est très contrôlé, au Canada aussi d'ailleurs. On dit qu'on le chasse pour réguler la population, bien sûr, mais en fait, ce sont des trophées. Hein. Alors, comme le nom l'évoque, l'ours noir est souvent noir, mais avec un museau marron clair ou beige, mais il peut aussi être brun. Hein. Il est un peu plus grand, bien sûr, que l'ours à lunettes, mais il est plus petit que l'ours brun, bien sûr, beaucoup plus petit que l'ours polaire. Il fait quand même jusqu'à 2 mètres de long, de 1 mètre à l'épaule, en fait, à la hauteur, un poids qui peut atteindre les 250 kg à peu près, et l'ours noir américain est aussi appelé baribal. Alors, ce baribal est un excellent grimpeur, hein, puisqu'il a des griffes non rétractile, il nage aussi très bien, mais son régime alimentaire reste omnivore. Il y a une part importante de végétaux, il mange à peu près d'ailleurs tout ce qu'il trouve, fruits, noix, racines, baies, tubercules, enfin tout ça c'est l'essentiel de son régime alimentaire.
On parle aussi d'un ours dont la morphologie reste très variable, l'ours noir peut même être beige.
En effet, alors il existe un grand nombre de sous-espèces d'ours noirs qui se répartissent depuis le Canada jusqu'au Mexique. Alors certains peuvent être plutôt roux, mais il y a parmi elles l'ours kermode, qui est une sous-espèce, qui est un ours noir, mais il est au pelage brun. Alors brun plutôt crème, mais voire blanc parfois. Alors, il vit uniquement dans les forêts pluviales des côtes de Colombie-Britannique, hein, à l'ouest du Canada. Cette différence de couleur, ça provient d'une anomalie génétique qui devrait être appelée à disparaître à moyen terme parce qu'il s'hybride parfois souvent avec les autres sous-espèces d'ours noirs.
L'ours noir a une préférence pour les zones forestières.
Oui, comme la plupart des ours, hein, il habite plutôt les forêts. Il hiverne pour survivre aux hivers très froids du Canada, durant lesquels il ne trouve plus du tout de nourriture. Les femelles profitent d'ailleurs de la fin de la période d'hibernation pour donner naissance à leurs oursons.
Et c'est dans le cercle polaire que vit le plus grand des ours, l'ours blanc ou ours polaire.
Voilà, l'ours blanc ou ours polaire, c'est avec quand même certains ours bruns, l'espèce la plus massive. Elle peut atteindre 700 kg, la moyenne c'est plutôt de 500 à 600 kg pour un grand mâle, et c'est également l'espèce la plus grande de tous les oursidés, puisqu'il peut faire 3 mètres de long et 1 mètre 60 de haut. Il détient le record de taille actuellement avec 1 tonne 100. Donc il est légèrement supérieur au plus gros ours Kodiak qu'on ait jamais trouvé. Donc c'est un ours polaire, mais c'est aussi l'espèce la plus carnivore. C'est à cause de son adaptation, bien sûr, à la vie au-delà du cercle arctique, qui se traduit donc à la fois par sa fourrure blanche, qui est très doublée d'une bourre très épaisse pour résister à des froids incroyables. Sous la fourrure, l'ours polaire a en effet une peau de couleur noire, qui en plus lui permet de capter mieux les rayons solaires, une couche de graisse qui peut dépasser les 10 cm, alors c'est pas négligeable par rapport à la graisse humaine, même si des fois on en a un peu au mauvais endroit. Les ours polaires n'hivernent pas, à l'exception des femelles gestantes qui vont creuser une tanière pour y donner naissance aux oursons, et là elles peuvent avoir des périodes plus ou moins endormies.
C'est aussi un endurant nageur grâce à ses grosses pattes partiellement palmées.
Oui, tout à fait, il a des pattes quasi palmées, et parmi les mammifères, c'est le seul animal terrestre capable de nager sur plus de 300 km d'une traite en plein air. Hein. On voit que c'est quand même quelque chose. Il peut donc traverser des zones marines importantes, évidemment, ça l'épuise quand même. Hein. 300 km, ça se fait pas en une fois. Il est renommé pour la chasse qu'il fait sur les phoques, alors c'est principalement le phoque annelé et le phoque du Groenland. Il peut les sentir à 1 km de distance, voire les sentir sous la glace.
Bien.
Donc il attend la formation de la banquise parce qu'il ne peut pas tellement chasser autrement. Lorsque la banquise est faite, il va chercher des odeurs des ours ou des trous de respiration que font ces phoques, et là, il va pouvoir les attraper. Il a généralement des mœurs solitaires, donc il parcourt de très grands territoires en quête de nourriture, il a besoin d'un espace immense. Il s'attaque aussi aux cétacés, hein, parfois aux globicéphales par exemple, ou même aux morses, alors, qui sont déjà des très 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 grosses, des grosses proies. Mais c'est le seul ours capable de manger de la baleine bleue, enfin j'exagère, c'est pas le seul, parce qu'il mange évidemment des carcasses de grosses baleines, notamment les baleines franches, les baleines bleues, etc., qui peuvent échouer après avoir été blessés en mer. Il consomme des morses, on l'a vu, ou des belugas, alors que c'est des chasses évidemment qui sont difficiles, mais les ours qui chassent ça sont capables d'opérer de vraies stratégies, faire tomber par exemple le morse de son rocher ou des choses de ce genre, et ils peuvent donc tuer des très grosses proies beaucoup plus grosses qu'on le croyait. Alors certains ours vont alors collaborer pour réussir certaines de ces chasses, notamment au beluga, et donc on voit plusieurs mâles s'associer alors qu'on croyait les ours polaires totalement solitaires. Il y a donc ici des petits groupes de mâles célibataires qui peuvent faire cela. Mais enfin, une grande partie de son alimentation est complétée par du poisson, des œufs, des petits rongeurs et puis des végétaux, hein, notamment une algue marine de la mer Arctique qui paraît absolument essentielle à son alimentation. Mais c'est quand même le seul ours qui, on peut dire, super prédateur et grand carnivore.
Quelle est actuellement sa répartition et son statut ?
Alors, il est classé comme très vulnérable par l'UICN, de plus en plus vulnérable avec le réchauffement climatique. On a 19 sous-groupes d'ours polaires qui se répartissent surtout au nord du Canada, un petit peu au Groenland, un peu en Norvège, en Russie et surtout en Alaska. Le total ferait jusqu'à 20-25 000 ours polaires. C'est des chiffres évidemment sujets à caution, on connaît très mal les chiffres de la Russie. À cause du réchauffement climatique, évidemment, on sait que la surface de banquise diminue 13% quasiment tous les 10 ans. Donc sans la banquise, le réchauffement va entraîner la réduction des lieux de reproduction et de repos et de terrains de chasse de l'ours. Il a donc été présenté comme un symbole de ce réchauffement climatique. N'oublions pas que le dérèglement climatique va toucher toutes les espèces en même temps, en touchant évidemment les systèmes écologiques de toutes les espèces, depuis les petites chrysopes en passant par les taupes et évidemment par les ours blancs. Certaines populations d'ours polaires vont donc se regrouper souvent autour des villes proches, et puis là ils vont se mettre à piller les décharges. Du coup, ça crée de plus en plus un problème de relation avec les populations humaines locales. Et puis il y a un autre problème aussi qui guette l'ours blanc, c'est les hybridations qui sont facilitées maintenant de par leur relation beaucoup plus proche entre l'ours blanc et les populations de grizzly.
D'ailleurs, son cousin le grizzly fait partie des ours bruns présents en Amérique.
Oui, en dépit de son nom grizzly, c'est l'une des sous-espèces les plus grandes des ours bruns, qui peut atteindre jusqu'à 600 kg, lui aussi à peu près. Il vit au nord du Canada, je crois qu'il y a un record de 700 kg qui a été obtenu chez l'ours brun. Donc il vit au nord du Canada, dans les montagnes rocheuses, en Alaska, mais il peut vivre jusqu'au Mexique. En fait, c'est un ours brun qui est l'ours le plus répandu dans le monde, avec une dizaine de sous-espèces, dont le grizzly américain. Il n'est pas classé parmi les espèces menacées au plan mondial, car il y a un grand nombre qui subsisteraient en Russie, au Canada et en Alaska, et puis parfois dans certaines régions de l'Europe. Mais en 2016, l'ours a été réévalué et placé sur la liste rouge des espèces menacées, parce que l'ours brun est répertorié maintenant comme ayant quand même des préoccupations. On pense que les petites populations qui sont isolées sont devenues très vulnérables, notamment celles de l'Europe et bien sûr du sud-est et du centre de l'Asie. Plusieurs populations d'ours bruns sont protégées par des législations locales, alors que les grizzlies sont encore considérés comme menacés, par exemple, en dehors de l'Alaska. L'ours brun, lui, est surtout menacé en Europe.
Mais l'ours brun véhicule aussi une réputation de tueur.
Oui, parce que l'ours brun apprécie la viande, mais c'est un très piètre chasseur. Il ne peut tenir la distance, bien sûr, à la course face à un cervidé ou à un élan, hein, c'est pas un loup. Donc il va privilégier des proies affaiblies ou déjà tuées, ou des proies jeunes ou encore malades. Alors évidemment, les troupeaux de moutons qui sont laissés sans surveillance, qui n'ont même pas de réflexe de survie depuis la disparition des loups et des ours, sont directement menacés par les ours qui vont passer dans le coin. Mais c'est surtout un opportuniste. Il a un régime alimentaire très varié selon la période de l'année. Il peut manger du poisson, des œufs, des insectes, des plantes, des carcasses, des charognes, des baies, des oiseaux, des petits rongeurs, des invertébrés, et puis bien sûr aussi le miel et les larves d'abeilles.
Comment se répartit l'ours brun en Europe ?
Son aire de répartition est très fragmentée. Il y a plusieurs petites populations d'ours bruns en Europe, de l'Est en Russie. En Europe occidentale, les très petites populations d'ours bruns isolés sont situées dans les Pyrénées, dans les monts Cantabriques, dans les monts Apennins, dans les Alpes, l'Autriche et la Slovénie. Il a été exterminé en Suisse, au Liban, dans beaucoup d'autres pays européens, notamment dans tout ce qui était zone de plaine, hein, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Mais l'espèce était présente originellement dans toute l'Europe, et même jusqu'en Afrique du Nord, puisqu'il existait l'ours de l'Atlas. C'était le seul ours qui était présent en Afrique. C'est un ours de taille moyenne. Les mâles pèsent entre 250 et 400 kg et les femelles entre 100 et 250 kg. Mais on sait que certains ours, comme l'ours Kodiak par exemple, peut atteindre 600 kg. En Amérique toujours. En Europe, évidemment, c'est souvent moins le cas et souvent plus petit. Il a une fourrure brune très dense qui s'éclaircit en été, qui s'assombrit en hiver, avec toujours, on l'a dit, donc un régime omnivore, alimentaire omnivore, qui inclut quand même jusqu'à 70% de végétaux. L'ours brun, c'est vraiment pas un gros carnivore. Les baies, les noix, les insectes, c'est souvent beaucoup plus le cas, car dans la partie animale qu'on trouve, on trouve des lapins, évidemment de temps en temps des chèvres et des biches, mais souvent parce que c'était des animaux à l'état déjà de cadavres. Il n'est pas capable de chasser, même un mouton qui court, il ne pourra pas facilement l'attraper. Il a beau courir vite, il ne peut courir que sur une distance très courte. Tout comme les mammifères qui hibernent, le métabolisme des ours va quand même ralentir à la période hivernale et les pulsations cardiaques vont même être divisées de moitié. Mais ce n'est pas pour cette seule raison qu'il s'est réfugié dans les Pyrénées.
Nous retournions dans les montagnes avec Élu Vessie. Nous voilà revenus sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Dans cette émission, où nous nous amusons à décortiquer les drôles d'idées de la biologie, et aujourd'hui, nous interrogeons donc la conservation de l'ours brun. Thierry, l'ours brun est encore présent en Europe, et il a une longue histoire avec les hommes.
Et oui, Siona, nous retournons donc dans le vif de notre sujet, l'ours brun. Alors, l'ours brun a une très longue histoire en Europe, évidemment, puisque depuis la fin des glaciations, il y avait déjà des ours présents, notamment l'ours des cavernes, qui est aujourd'hui disparu. Alors, l'ours des cavernes n'a pas été le concurrent direct de l'homme préhistorique pour des proies, mais il a surtout été concurrent pour l'occupation des grottes. L'ours de caverne était en fait quasiment un végétarien convaincu. Les rencontres entre les humains et les ours des cavernes ont souvent été violentes, mais c'est souvent l'humain qui tuait fréquemment les ours endormis durant leur hibernation.
Et on a aussi des preuves de découpe de la viande de l'ours des cavernes par les humains, que ce soit Néandertal ou Homo sapiens.
Oui, mais il n'empêche, les relations avec cet énorme ours sont restées souvent très respectueuses. En fait, il y avait une sorte de système de tabou social, très probablement, pour que les espèces évitent les confrontations. La période la plus froide de la dernière glaciation, la glaciation de Vurne, a été néfaste, parce que c'était des ours végétariens, et qu'ils ont disparu il y a donc environ 25 000 ans. Alors, eux-mêmes divergeaient d'un très ancien ours, il était apparenté, l'ours des cavernes, aux ours blancs et aux ours bruns. Et ces espèces sont apparues il y a environ 1,6 million d'années, donc un petit peu avant l'humain, il y a 300 000 ans. L'ours des cavernes a d'ailleurs été un contemporain des ours bruns. Les ours des cavernes et les ours bruns ont divergé, donc, quand on fait une analyse du génome d'une partie des cellules d'ours des cavernes, qui ont été réalisées par des chercheurs français, au demeurant, ça montre que cette espèce s'est éteinte il y a 15 000 ans. Il y a donc un déclin drastique de leur population, il y a environ 40 000 ans, ce qui coïncide avec la propagation des hommes préhistoriques, mais aussi avec le refroidissement du climat, qui a réduit la disponibilité des plantes. Ce manque de nourriture a donc divisé la population globale d'ours en plusieurs sous-populations, qui ont été trop faibles pour survivre et échanger leurs gènes. L'ensemble de ces ours-là ont donc disparu, et les ours bruns européens et nord-américains appartiennent malgré tout au même groupe d'espèces.
Mais l'ours brun est un rescapé de ces époques, preuve que l'humain n'a pas tout massacré à l'époque.
Alors oui, même si les relations sont un peu conflictuelles, les premiers humains en ont fait une proie, cela reste quand même accidentel. On considère que les humains avaient plutôt un comportement charognard, en exploitant soit les ours morts ou affaiblis, soit en exploitant leurs proies. L'archéologie ne livre d'ailleurs que de très très rares preuves directes de chasse à l'ours, on a notamment quelques impacts de projectiles en silex. Mais l'ours a presque toujours eu tendance à fuir les humains, et il ne charge évidemment que lorsqu'il est en danger, par exemple enfermé dans une cage ou dans une battue. Donc les attaques sur les êtres humains ont été extrêmement rares, bien que les humains et les ours ont cohabité depuis près de 200 000 ans maintenant. L'ours brun est donc resté le plus puissant fauve de nos contrées, mais les attaques de l'ours sont toujours restées infinitésimales.
Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion, mais l'ours. Admiré, vénéré, pensé comme un parent ou un ancêtre de l'homme. Mais l'ours a été ensuite pourchassé activement par les chasseurs ou villageois.
Oui, tu as raison. Probablement au départ, c'était plutôt un sujet de culte, comme une sorte de roi des animaux. Et puis après, il a été pourchassé et dénigré avant de revenir en grâce sous la forme de notre petite peluche. En fait, la question se pose chez les préhistoriens, c'est de comprendre s'il y avait eu une suite au culte de l'ours que faisaient les Néandertaliens. Pas très facile en fait de comprendre ces manifestations rituelles, on peut pas facilement les décrypter puisqu'il n'y a pas d'écriture. Mais l'ours est assez peu représenté sur les parois des grottes, donc on pense qu'avec Homo sapiens, le culte a été peut-être différent. Mais il a fait l'objet quand même durant plusieurs dizaines de millénaires d'un culte, et ça a laissé sa signature dans l'imaginaire et dans les mythologies jusqu'au Moyen-Âge. Et encore aujourd'hui d'ailleurs des fêtes de l'ours avec des humains qui se déguisent en bêtes. C'est surtout l'installation du christianisme qui a interdit ces cultes païens et ces sarabandes de l'ours, parce que cet univers culturel païen était évidemment interdit. L'Église et les notables dominants sont entrés en guerre contre l'ours, et il s'agissait clairement de l'exterminer. Ça se passe dans les premières années du Moyen-Âge, puisque c'est après avoir commencé ces destructions qu'on a proposé quelques raisons pour ces tueries. Après les tueries qui était donc uniquement motivé par l'Église, l'ours va prendre une image plus bestiale et on va lui imputer les carnages de brebis, des attaques.
Abominable et dangereux, quoi.
Alors oui, d'abord dangereux, un peu abominable par la suite. Donc il a été chassé, piégé, et donc il va se cantonner petit à petit à des montagnes comme les Pyrénées. L'image de l'ours se dégrade, il est vu maintenant comme un balourd, un animal qu'il faut contrôler. Et donc c'est surtout pendant la fin du Moyen-Âge qui va devenir la période d'or des montreurs d'ours, qui vont exposer l'animal, le font danser ridiculement comme un lourdeau. Donc c'est un animal de foire, avec de nombreux spectateurs qui se pressent. Par exemple, à la foire de Saint-Germain, au XVIIIe siècle, on observe des ours qui vont mimer les gestes quotidiens de la vie, qui jouent de la musique, ou même des ours qui savent compter. Ces exhibitions vont quand même durer jusque dans les années 1950. Les cirques vont l'utiliser comme acrobate, en l'habillant de jupe, de fanfreluche. Pourtant, en même temps, à partir des années 30, l'image de mangeur de miel va finir par réhabiliter l'ours. C'est bizarre, hein, c'est parce qu'il va piller les abeilles qu'on va retrouver ça, notamment dans les villes. Et ça va donner par la suite l'idée de l'ours en peluche, le fameux teddy bear, qui a terrifié nos ancêtres, qui va maintenant bercer nos enfants.
En France, l'ours occupait alors tout le territoire.
Bon, à l'époque romaine, oui, mais il était déjà faiblement présent en France, en plaine notamment. L'ours y est resté cantonné aux grands espaces tranquilles et on va le retrouver plutôt en forêt et en montagne à partir de cette époque. Si le territoire semble vaste, les domaines de vie sont pourtant constamment fragmentés. Alors c'est parce que le territoire commence à être dégradé par le développement des activités humaines, notamment la fabrication des villes et bien sûr aussi l'agriculture. De nos jours, les populations d'ours bruns pour toute l'Europe s'est estimée à 15 000 individus. Mais 15 000 individus dispersés dans 28 pays européens.
Alors en France, peu à peu, l'ours a été cantonné dans les Pyrénées.
Oui, donc on a vu sa répartition se morceler partout, et donc en France, les derniers ours ont été restreints aux seules Pyrénées. La chasse, le déboisement ont décimé toutes les populations de plaine, donc ça à partir du Moyen-Âge, et la toute petite population d'ours en France n'a pas cessé de diminuer pour se restreindre petit à petit aux Pyrénées. Alors que l'ours originel qui occupait les Pyrénées est aujourd'hui probablement disparu, puisque la mort de Canel signe la fin de génétique des derniers ours des Pyrénées. Il faut comprendre que l'ours des Pyrénées avait été façonné par des milliers d'années d'existence dans cet habitat isolé quasiment depuis le Haut Moyen-Âge, et donc la souche pyrénéenne pure est éteinte. Ce qui est paradoxal, c'est que l'ours brun continue d'exister partout en Europe, mais que les populations particulières sont maintenant morcelées avec de nombreuses souches ancestrales qui ont été décimées, comme la souche ancestrale de l'ours des Pyrénées.
Les Pyrénées racontent donc l'histoire du déclin des ours comme le modèle de ce qui se passe partout en Europe.
En effet, puisque Canelito, le fils de Camille, le dernier porteur des gènes d'ours brun dans les Pyrénées, a été maintenant touché. Il faut savoir que par sa mère Canel, il est le dernier porteur de gènes de la souche pyrénéenne, son père est Néré, qui vit principalement du côté, dans la partie occidentale du territoire des ours pyrénéens.
Cette histoire de l'ours est donc l'histoire d'une extermination des ours des Pyrénées.
Oui, la cohabitation est encore difficile, même si l'ours reste normalement un véritable trésor de la biodiversité française. Alors il a d'abord disparu des collines et des plaines, puis du massif central, soit presque dès le Moyen-Âge, et il était devenu très rare en France bien avant la Révolution. Entre 1800 et 1937, l'ours va disparaître des Vosges, du Jura et même des Alpes françaises. Selon une estimation de l'Office des forêts sous Napoléon, en 1808, la France compte environ 2000 ours bruns. Mais déjà, 50 ans plus tard, on ne note plus la moindre trace de la présence de l'ours dans le massif du Jura, que ce soit d'ailleurs en France ou en Suisse. La chasse à l'ours se pratique encore en 1880 jusque dans les Alpes et puis dans les Pyrénées, où les ours et les derniers loups sont accusés de ravages sur les troupeaux. L'arrêté du 31 juillet 1914 indique par ailleurs que sont considérés comme animal malfaisant les ours bruns. La mort des deux derniers ours bruns des Alpes françaises est constatée en 1937.
Mais le déclin se poursuit rapidement.
Donc à l'époque, en 1938, on n'a plus des ours que dans les Pyrénées, et on estime encore à 150 ou 200 ours entre la France et l'Espagne. Mais ce sont des chiffres un peu minimisés probablement. Mais beaucoup de battues contre les ours ont échoué, l'animal n'étant tout simplement plus là. Il ne faudra que 30 ans pour faire disparaître la plupart de ces individus. Face à la raréfaction en 1947, l'ours est arrêté d'être classé nuisible et les primes pour les chasseurs qui en tuent sont enfin supprimées. Il faut voir que jusqu'en 1947, les chasseurs touchaient des primes à chaque fois qu'ils tuaient un ours. Comme aujourd'hui, on a des primes pour tuer des renards ou des fouines que la fédération de chasse paye aux chasseurs qui font ça.
Jusqu'à l'extermination.
En 1957, il y a un décret gouvernemental qui va interdire enfin la chasse à l'ours blanc en France. Donc il est protégé depuis 1957. Mais il ne reste plus qu'une cinquantaine d'ours dans tout le massif des Pyrénées. Seulement voilà le problème. La consanguinité, le cantonnement d'individus beaucoup trop isolés, et puis le dérangement par les forestiers ralentit beaucoup la reproduction. Les battues continuent pourtant à titre exceptionnel. Hein, on abat encore des ours lors de chasses aux sangliers qui débusquent les petits et les mères. Et là, on a le droit de les tuer. Dans la nature, à peine la moitié des oursons vont survivre aux premiers hivers quand leur mère a été tuée. Ce qui fait qu'en 1975, on compte à peu près 36 ours, essentiellement sur les hauteurs du Béarn et de l'Aragon du côté espagnol. Les femelles et leurs petits subissent le plus gros des massacres, car les mâles adoptent plutôt une vie solitaire et eux vont s'écarter des humains. L'État prend alors la décision de déclarer l'ours espèce protégée en 76. Mais il est déjà beaucoup trop tard. Les ours français sont isolés en trois petits noyaux qui ne peuvent plus se rencontrer. Ils ne peuvent plus traverser les routes encombrées par les camions pour le transport du bois ou les relations commerciales entre l'Espagne et le reste de l'Europe.
Mais quand même, l'ours n'est plus considéré comme un nuisible alors. Pourquoi ce changement ?
Eh bien, déjà, pourquoi est-ce que les ours se cantonnent à vivre justement près d'écoles où passent le maximum de camions et de chasseurs et de déboisements ? Bon, il y a d'une part la raréfaction des populations qui ne permet plus de conclure que l'ours est dangereux. Donc c'est évidemment pour ça qu'on va protéger. Mais aussi des études de naturalistes qui se succèdent. On s'aperçoit que l'ours n'est pas du tout le frouf carnivore qu'on a décrit. On découvre qu'il ne charge des humains que lorsqu'il est contraint et forcé, que toutes les ours évitent les hommes. Mais lorsque des battues dites aux sangliers, évidemment ça oblige les mères à protéger leurs petits. Mais souvent, les ours évitent la confrontation, à tel point que dire d'un homme que c'est l'homme qui l'a vu ours, ça devient une expression pour raconter quelque chose d'exceptionnel. C'est tellement rare de rencontrer un ours qu'on dit « Ah, mais c'est lui l'homme qui a vu un ours, c'est fabuleux !» Et c'est souvent d'ailleurs l'homme qui connaît un homme qui a vu l'ours.
Eh oui. Et toutes les études le confirment. L'ours n'est pas un prédateur.
Alors si, l'ours reste un grand prédateur, mais avec un régime alimentaire très très omnivore. La part carnée de son alimentation est effectivement très faible. L'animal mange beaucoup de végétaux, jusqu'à 70% de son alimentation, des tubercules, des fruits, des bourgeons, des noix, des myrtilles, qui constituent la majeure partie de son alimentation. Après, même la part animale de ce qu'il dévore reste principalement constituée par des petits animaux. 15% du reste de son régime sont composés par des insectes. Les grenouilles, les rongeurs, les oiseaux représentent 8% de son régime, et les 8% restants, c'est principalement des charognes. On voit que la part de chasse animale représente moins de 20%. Il fait ripaille principalement de cadavres d'ongulés, après la chute de ces ongulés des falaises, les chamois par exemple, ou des bouquetins morts de maladie par exemple. Il sait écarter les vautours de la dépouille quand l'animal est mort, et donc s'emparer des restes d'ongulés tués par les autres prédateurs. Donc il reste à peine 2% de proies chassées, le chevreuil, le bouquetin, le lièvre, le lapin, le chamois, et il s'attaque souvent qu'à des animaux déjà très affaiblis.
Et les moutons sont aussi attaqués.
Alors il faudra en reparler, parce que effectivement les moutons sont les plus vulnérables. Mais loin d'être un tueur de moutons, l'ours ne commet que de très faibles incursions vers les troupeaux. C'est pas du tout un chasseur comme le chien sauvage ou le loup. En France, toute la prédation sur les ovins, par toutes les espèces de prédateurs, le lynx, le loup, les ours, concerne environ 0,08% du cheptel de moutons.
Eh bien.
Alors, on y reviendra, parce que c'est quand même la principale justification toute trouvée pour que commence la guerre de l'ours.
Après 1976 et la protection officielle de l'ours, le déclin ne s'est pas arrêté. Pourquoi ?
Eh bien oui, le déclin de l'ours s'est poursuivi ensuite, principalement à cause de la chasse aux sangliers, du braconnage, de l'empoisonnement, et pas mal d'ours empoisonnés, de la dégradation et la destruction de son habitat, au point de conduire l'espèce au bord de l'extinction en 1995. Songez-y, en 1995, il ne restait que 6 ours de la souche pyrénéenne, dont deux très vieux et un solitaire. Tous étaient du même lignage, et tous confinés dans les vallées du Béarn de Daspe et d'Ossau, donc à l'ouest du massif des Pyrénées. À l'endroit d'ailleurs, à côté de l'endroit où on avait fait le parc des Pyrénées. Autant dire que le parc n'avait pas été fait pour protéger l'ours. Mais le braconnage a quand même fini par choquer l'opinion. Si une espèce protégée pouvait être braconnée, c'est que quand même quelque chose se passait mal. Or, le 11 mai 1982, des chasseurs de la vallée d'Ossau vont abattre une ours et son ourson lors d'une battue dite au sanglier.
Ah oui, deux individus...
Là encore, l'ours, cerné par les chasseurs, n'a pu que tenter de forcer le blocus, et donc elle se fait abattre. L'ourson, lui, est mort un peu plus tard, on l'a retrouvé mort de faim. Du coup, les réactions d'opinion sont devenues virulentes. Pour la première fois, on s'interroge sur la sauvegarde d'une espèce aussi emblématique, et on découvre en même temps qu'elle est peu dangereuse. L'association France Nature Environnement demande d'ailleurs un programme de réintroduction pour renforcer les populations oursines. Il faut 6 ans de mise en place, et en 1988, un plan ours, dans le cadre du programme européen, est déclenché. Évidemment, il est déclenché en dehors des zones présentes de l'ours, plutôt du côté est des Pyrénées, ce qui évidemment ne fait pas beaucoup de sens pour renforcer.
Ben oui, ça renforce pas les populations.
Cela dit, en passant, jamais l'effectif en 95 n'avait été plus bas, car il n'y avait effectivement que 5 ours de la souche pyrénéenne. Mais dans ces 5 ours d'ours pyrénéennes, il n'y avait qu'une seule femelle, la femelle nommée Canelle. C'était donc elle la porteuse des derniers gènes des Pyrénées. Elle habitait entre les vallées d'Aspe et d'Ossau, et c'est la dernière femelle de type vrai ours des Pyrénées.
Mais les élus locaux dans les Pyrénées ne vont pas jouer le jeu.
Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir encore attendre 2 ans pour que débute le plan de sauvegarde. Notamment, beaucoup d'élus, hein, comme Jean Lassalle, vont préférer que la population des ours s'éteigne tout simplement. Ils le disent clairement, il faut récupérer la montagne, débarrasser la montagne de l'ours pour pouvoir exploiter le bois et développer l'élevage. Dès l'année suivante, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, les anti-ours vont donc multiplier les manifestations, les opérations coup de poing, les battues symboliques contre les ours, les saccages des locaux de l'équipe ours, etc.
La guerre contre les ours est alors fermement déclarée.
Eh oui, néanmoins, il y a eu une association d'élus de montagne, l'ADET, qui va accepter le plan de réintroduction pour favoriser le développement touristique au pays de l'ours. Alors, le pays de l'ours, en Ariège, c'est quand même drôle, puisqu'il y avait déjà, depuis très longtemps, pas d'ours du tout. Le choix de l'Ariège, alors que les ours sont disparus, ça constitue donc pas une vraie solution. Mais, comme la réintroduction est possible là, on va mettre un travail de mise en place qui va être validé par le Conseil de l'Europe, par les ministres de l'écologie, notamment Corinne Lepage. Après, il faut trouver des ours pour pouvoir les retransplanter dans les Pyrénées.
En effet, remettre des ours différents est un vaste problème. Déjà, l'ours des Pyrénées a-t-il la même génétique que tous les autres?
Alors non, puisqu'il est isolé depuis des années des ours alpins qui sont les plus proches. Il a donc acquis un patrimoine génétique assez différent. Mais comme là, on a un vrai risque de disparition, on va chercher les populations d'ours qui sont les plus proches génétiquement. Donc, c'est des études qui ont été menées par Pierre Taberlet à Grenoble, qui vont démontrer que les ours qui restent dans le massif alpin restent génétiquement assez proches des ours des Pyrénées. Il semblait donc possible d'organiser une rencontre entre ces deux ours pour renforcer les minuscules populations des ours des Pyrénées. Mais il a fallu de longues négociations, il fallait trouver donc l'endroit où on allait relâcher les ours et où ils pourraient y survivre sans être massacrés par des chasseurs, enfin des braconniers en l'occurrence. Paradoxalement, le lieu préféré pour les relâcher a donc été choisi très loin des zones fréquentées par les derniers ours. Donc on ne va pas beaucoup renforcer les populations comme ça, mais l'Ariège semblait propice à les accepter, alors que les autres départements des Pyrénées ne le faisaient pas. Du coup, la Slovénie a offert 2 femelles et un mâle à la France, Ziva, Melba, et un mâle puissant et dominant, Pyrrhus. Ils sont lâchés dans les Pyrénées entre 96 et 97 et suivis par des scientifiques, mais Melba sera très vite abattu par un chasseur, alors que ces 2 petits oursons qui sont juste nés vont aussi disparaître. En même temps, l'Union Européenne se mobilise pour l'ours brun et va soutenir enfin le plan français.
Alors qu'aujourd'hui, on entend encore tous ceux qui se plaignent des ours, les plus jeunes ne se souviennent pas combien la réintroduction d'ours dans les Pyrénées françaises a fait débat.
Oui, parce que réintroduire un grand prédateur, ça reste difficile. Une fois qu'il a disparu, le réintroduire, c'est quasiment impossible. Il ne suffit pas de retrouver des individus qui vont être génétiquement compatibles. Ça, c'est déjà le premier point. Mais il faut aussi les équiper, donc les capturer, les transporter, et puis pouvoir les relâcher dans un espace où, là, ils vont pouvoir s'établir sans dérangement. Alors, il y a 20 ans, quand on a commencé les premières réintroductions avec les ours slovènes, ils ont été relâchés en pleine polémique, avec plein de gens qui voulaient les faire disparaître, les faire partir. Alors, avec, il y a eu des rebuffades, bien sûr, des humains autour de la réintroduction. Du coup, la tentation des politiques, c'était de renoncer. Évidemment, même si ça atteint gravement la biodiversité, si les gens du coin ne sont pas d'accord, c'est très difficile de faire autre chose. En 2001, l'un des premiers descendants des oursons réintroduits, Néré, va s'accoupler avec la toute dernière femelle Canelle. Alors là, c'est la dernière femelle des Pyrénées qui va donc s'accoupler avec Néré. Et ça donne naissance à Canelito, qui va donc posséder la moitié de la génétique des vrais ours des Pyrénées. C'est pour la première fois quelque chose qui pourrait être sauvé. N'oublions pas qu'on pense que Canelle est encore capable de survivre à l'époque. Sauf que, quand même, on voit très bien que cette génétique qui pourrait être sauvée va supposer une reconstitution très très lente des populations, dans un avenir très lointain. N'oublions pas que les ours n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de 3 à 6 ans, et qu'une femelle ne peut donner naissance à une portée que les 2 ou 3 ans. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que Canelito sera le dernier ours de sang mêlé pyrénéen, car sa mère de sang pur, Canelle, est abattue en 2004 par un chasseur lors d'une battue au sanglier. Nouveau choc dans l'opinion, la toute dernière femelle autochtone d'ours des Pyrénées a disparu. L'ours des Pyrénées a complètement disparu. Les chasseurs sont officiellement condamnés, il y a des pétitions qui réclament des nouvelles introductions d'ours Sleven, d'autant qu'en Italie, le repeuplement des ours ibériques fonctionne.
L'opinion a-t-elle enfin basculé dans le camp de l'ours ?
Et pourtant non, loin de là. Mais à la suite de l'émotion quand même suscitée par la mort de Canel, la dernière femelle de souche pyrénéenne abattue par un chasseur en vallée d'Aspe le 1er novembre 2004, la ministre d'écologie, Nelly Olin, organise deux lâchers, mais très discrètement, en Haute-Garonne, pas trop loin de ces départements-là. Sauf que du coup, des battues sont aussitôt organisées contre les ours, et les braconniers vont quand même rester bredouilles pendant longtemps, mais beaucoup déranger l'ours. En même temps, venus de Slovénie, Paluma et Franska sont introduits donc nitement dans la discrétion, pour éviter des affrontements directs entre les anti-ours. Ces deux sources vont évoluer en France et en Espagne et vont croiser des jeunes mâles. De plus, pour atteindre un effectif raisonnable et pour essayer d'endiguer le déclin, on va relâcher également 5 ours slovènes en 2006 dans les Pyrénées centrales. Alors là, les anti-ours font des manifestations monstres et organisent des sabotages. En face, les pro-ours organisent des marches de soutien et brandissent des sondages français favorables à l'ours. Cependant, les ours sont détruits ou disparaissent mystérieusement, par exemple le jeune balou, qu'on a retrouvé mort, on ne sait pas de quoi. Bon, il est vrai que ce mâle était assez indiscipliné et qu'il venait attaquer régulièrement les moutons qui erraient dans la montagne. Selon les éleveurs, évidemment, l'ours nuit à leur activité. Ça rappelle les temps où il fallait faire attention dans ces montagnes pauvres. Alors qu'aujourd'hui, avec des troupeaux devenus immenses en élevage dit extensif mais sans aucune surveillance, l'ours apparaît évidemment comme un intrus. Les arguments des anti-ours commencent à recevoir donc de plus en plus d'écho et devant toutes ces récriminations, le ministre Ségolène Royal, puis le ministre Roselyne Bachelot vont alors arrêter toutes les réintroductions.
L'État a donc entériné à l'époque une sorte de renoncement au plan de survie.
Au plan de survie des ours, oui, en quelque sorte. Et malgré toutes les réprimandes internationales, parce que la France est condamnée pour cela de partout dans le monde. Hein. On oblige des gens à protéger les tigres et les lions et on n'est pas capable de protéger une dizaine d'ours dans les Pyrénées.
On est des bons donneurs de leçons.
Tout à fait. Du coup, la population ursine, évidemment, ne va pas grandir. En dépit de l'apport de quelques ours espagnols qui vont venir aussi sur le versant français, mais qui sont devenus aussi très rares sur le versant ibérique des Pyrénées, puisqu'ils n'ont plus beaucoup d'intérêt à changer d'un versant à l'autre. En 2018, la population est donc évaluée à entre 22 et peut-être jusqu'à 30 ours. Mais une grosse partie de cette population ne dépend que de quelques individus seulement. Donc ça ne règle pas le problème de la diversité génétique. L'extinction de l'ours pyrénéen continue d'être programmée. Avant, elle était due aux prédations par l'homme, mais elle était aussi due à la consanguinité. Or, quasiment, tous les jeunes mâles et les oursons sont frères, sœurs, cousins. Imaginez en France une sorte de village d'ours qui ne comprendrait qu'une trentaine d'individus sur l'ensemble de la chaîne de montagne, habitant les uns à distance les uns des autres, alors qu'en face, il y a 66 millions d'êtres humains. La consanguinité est telle chez ces ours que le peu d'animaux adultes a du mal à trouver des partenaires et à élever une progéniture.
Et pendant 10 ans, depuis 2007, on a encore abandonné le problème.
Tout à fait. Alors il y a eu un petit sursaut 10 ans après, quand l'État s'est déclaré que tout animal tué serait aussitôt remplacé par un autre. Mais en juin 2016, le grand mâle goyade qui est relâché dans les Pyrénées espagnoles, dans le cadre d'un programme initié par la Généralité de Catalogne, peut se passer. Par un jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la carence de l'État français et a condamné la France dans son obligation de maintenir la population d'ours bruns dans un état de conservation favorable. Alors donc on voit qu'il y a eu un petit sursaut en France avec la réintroduction de deux nouvelles ours slovènes en 2018, décidée par Nicolas Hulot, dans le Béarn, 14 ans après la mort de Canel. Alors, mais les éleveurs, évidemment, sont furieux, et la même question se pose, les ours peuvent-ils survivre à proximité des hommes? Alors les éleveurs, malgré des indemnités octroyées pour chaque brebis tuée, et parfois très confortablement, demandent, alors que, évidemment, quand c'est des bovins qui se tuent contre des voitures, là, ils sont pas indemnisés. Ces éleveurs, donc, vont demander que cesse cette prédation des ours. Il y a environ 200 à 500 brebis qui sont tuées par an. Donc, la protection des espèces et des espaces garantis à ces ours un territoire, le problème évidemment génétique, continue de condamner l'espèce, comme l'explique Alain Reine, le directeur de l'association Pays de l'Ours. Donc, il y a besoin de renforcer les réintroductions, mais devant un refus de plus en plus grand des locaux, et bien qu'on constate combien la survie des ours est menacée, les réintroductions ont cessé. Donc on voit bien que la difficulté d'un sauvetage par réintroduction dévoile que le problème est beaucoup trop ardu. Il est même presque impossible de réintroduire des lions ou d'autres grands prédateurs dans la nature sans que cela ne puisse soulever des vagues de contestation.
l'humeur cérébrale nous interprétait la danse de l'ours. Nous revoilà sur Internet et sur 89.4 dans une radio associative pas comme les autres, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio sans dieu, sans maître et sans publicité, et dans cette émission de Science en Liberté. Alors Thierry, toi qui es né dans les Pyrénées, la sauvegarde des ours reste mal partie. La place de la biodiversité est bien fragile. Et on vient de voir combien, là, en France, il existe des oppositions sur la survie des espèces en danger.
Oui, en fait, il faut savoir que l'explosion démographique du genre humain dans les derniers millénaires, on est quand même passé en 1850 d'un milliard d'habitants à beaucoup plus aujourd'hui, a mis en danger toutes les populations de grands mammifères sauvages. Depuis lors, des centaines d'animaux ont disparu de tous les paysages. Il y a un atlas documenté sur les espèces éteintes et de celles qui ont vécu qui a été dressé, et il met en évidence que les surfaces où elles sont aujourd'hui cantonnées et celles où elles ont été exclues du fait des activités humaines. Et on peut y voir particulièrement que l'aire de répartition de l'ours brun, aujourd'hui repoussée dans les régions septentrionales des continents, s'étendait, il y a encore peu de temps, du golfe du Mexique jusqu'à l'extrême nord du continent américain, qu'il était présent aussi dans le Maghreb, au nord de la péninsule d'Arabie, ainsi qu'en Eurasie, et on en croisait même dans les îles britanniques et jusqu'au nord de la Chine.
C'est un problème de sauver la biodiversité, parce que les oppositions sont plus fortes en France que pour le sauvetage des tigres ou des lions.
Oui, en fait, ce sont des oppositions locales, et c'est des oppositions souvent très puissantes, relayées par des lobbies comme celui de la chasse, par exemple. Mais cette contestation se manifeste partout, là où il y a des réintroductions. Comment trouver un espace pour la faune sauvage qui paraît compliquer la vie des humains? Comment relâcher un tigre, même en Sibérie, sans risquer qu'il ne s'avance dans des villages alors qu'il y a déjà une forte restriction disponible des proies et que les paysages sont détruits et bouleversés par le réchauffement climatique? Même dans les pays à ours, il existe des oppositions à la présence des grands prédateurs qu'on préférerait les voir disparaître, parce que les humains ont cessé de vivre ensemble avec les animaux sauvages et que de tout temps les carnivores ont servi de bouc émissaire pour protester contre les difficultés d'avoir des sous, des difficultés économiques. Et quand le rôle des réintroductions est de favoriser l'expansion des ours, eh bien évidemment, ça ne se fait pas du tout comprendre sans un grand effort pédagogique sur l'écologie de la nature. Effort pédagogique qui est quand même très très loin d'être présent en France.
D'autant que la France reste très loin de ses objectifs. On voit que sauver la biodiversité est extrêmement long et difficile.
L'objectif, c'est donc de stabiliser la population autour de 80 individus pour qu'on commence à avoir une chance d'avoir une survie durable. Mais il faudrait que ça soit réparti sur tout le massif. Or, pour l'instant, les ours se concentrent en petits noyaux, beaucoup trop isolés, en Ariège et dans le centre des Pyrénées. En 2020, en fait, il y aurait 29 ours bruns qui vivent autour de la frontière franco-espagnole. Et le recensement du printemps 2021 montre que 64 ours, dont 7 oursons d'année, ont été détectés sur l'ensemble 16, des masses. 16 oursons d'année, ont été détectés dans les Pyrénées.
Il reste qu'on ne fait que déplacer quelques ours d'un massif alpin à un massif pyrénéen, et que cela n'augmente pas les populations générales.
Ah oui, ça n'augmente évidemment pas la population. Et en plus, ce sont des populations qui restent quand même fragiles et fragmentées. Cette petite population dans les Pyrénées ne règle pas du tout le problème de la diversité génétique. Mais on ne peut pas oublier, en 2020, deux oursons sont encore retrouvés morts. Il s'agissait de Melba et de Gribouille. Un en Espagne, l'autre en France, le 9 juin 2020. Et des chasseurs viennent d'abattre Caramel, la fille de Melba, qui laisse donc deux petits oursons derrière elle, encore qui vont sûrement pas avoir passé l'hiver. L'ours aurait attaqué des chasseurs, nous dit-on, alors qu'elle a été abattue, justement parce qu'elle tentait de briser l'encerclement que la battue avait fait, et pour protéger ses deux petits. Qui est donc agresseur dans cette soi-disant réserve protégée naturelle? 20 associations ont déposé une plainte contre X pour destruction d'une espèce protégée, et tout autre chef que l'enquête diligentée permettra d'identifier. Des ONG comme Sea Shepherd, par exemple, promettent une récompense à qui dénoncera les tireurs. Mais l'enquête se heurte à l'omerta dans les vallées pyrénéennes et les gendarmes n'ont pas entendu le moindre suspect. Les réunions dans toutes les préfectures et les manifestations prévues contre l'ours se sont avérées si tendues qu'on constate vraiment qu'il y a un divorce entre la survie des espèces et les populations. Et pourtant, la France ne satisfait pas du tout à l'obligation internationale de conservation des espèces, telle qu'elle a été définie par la conférence de Rio en 92 sur la biodiversité. On est donc en dessous des objectifs de 1992.
Donc Thierry, nous venons de voir que la situation de l'ours reste précaire, puisque même dans des aires protégées, il est abattu sous divers prétextes. Y a-t-il encore de la place pour une cohabitation entre l'homme et la faune sauvage ?
Alors, l'objectif des réintroductions, ça reste d'abord de stabiliser la population des ours autour de 80 individus pour essayer d'assurer donc une survie durable. Mais pour mener cette politique de réintroduction, évidemment, ça a aussi suscité, même à l'échelle européenne, des réactions disproportionnées et irrationnelles. Les opposants à l'ours ne sont plus du tout sensibles à des arguments écologiques à cette échelle et restent irréductibles. Pour eux, l'ours n'a tout simplement pas sa place, puisqu'il se réserve tout l'espace pour l'élevage et la chasse. Je ne pense pas que les arguments des anti-ours soient rationnels, mais ils sont très entendus au niveau local. Pour autant, dans sa globalité, il ne fait aucun doute que la politique environnementale de l'Europe reçoit une large adhésion de la population dans la plupart des pays, et qu'elle pourrait connaître un succès sans pareil. De plus, l'accroissement des populations d'herbivores tend à favoriser le maintien des grands carnivores. Par un effet mésoprédateur, ils concurrencent les petits carnivores et évitent aussi leur prolifération. Donc ces grands carnivores sont indispensables, ils sont un maillon essentiel de l'écologie. En plus, ils éliminent les animaux malades et conjurent le pullulement des sangliers, par exemple.
D'ailleurs, même les chasseurs, en fait, insistent sur le fait que les sangliers seraient trop nombreux. Ce n'est donc pas la concurrence des ours qui anime le sentiment anti-ours.
Ben oui, parce que si les chasseurs disent que les sangliers sont trop nombreux, c'est qu'il faut bien quelque chose pour les réguler davantage. Or, l'ours, justement, y aurait sa place. Mais ce n'est ni le manque d'espace, ni le manque de proie qui pose problème. C'est l'acceptabilité de la présence de l'ours dans la nature. Bref, avoir une vraie nature sauvage. Car les anti-ours voient dans la sauvegarde une sorte de menace, principalement parce que ça les obligerait à diminuer leur chasse, à mieux gérer leurs activités de gardiennage de troupeaux, et puis bien sûr, ça reste de la chasse de loisirs. Or, ils souhaitent que les ours, les lynx et les loups disparaissent, ou soient confinés dans des zones restreintes, qu'on appellerait des réserves, où là, éventuellement, on ne les dérangerait pas. Mais enfin, si ce sont des réserves toujours ouvertes à abattus, ce sont des pseudo-réserves. Il ne resterait donc plus que les parcs animaliers. Absolument inconscients de ce que c'est qu'une écologie, que l'écologie elle est forcément globale, ces gens-là décrètent au contraire que ces animaux sont dangereux et inutiles, sauf pour les randonneurs et les touristes, et évidemment ces touristes et ces promeneurs sont ressentis comme des intrus dans la nature de ces chasseurs et de ces consommateurs de terrain, les forestiers, les bergers. Le touriste a lui ce statut d'imbécile qui est prêt à s'émerveiller de tout. Alors donc évidemment il ne comprend rien de la vie rurale et ne comprend pas pourquoi les ours sont en trop.
C'est des vraies caricatures. Mais l'ours est aussi dangereux et commet des dégâts.
Alors oui, il y a des dégâts sur les structures, parfois comme les bergeries, mais ils sont extrêmement rares. En France, pour l'instant, on a la porte d'une bergerie qui aurait été griffée et un peu forcée. Mais les moutons laissés seuls sans surveillance, par contre, eux peuvent être considérés comme des proies. Et la panique tue parfois des dizaines de moutons, parce que les moutons, c'est des moutons de panurge. Ils se suivent toujours les uns les autres, même dans des précipices parfois. Les éleveurs reçoivent des indemnités octroyées pour chaque brebis, mais ils demandent la disparition des ours en se fondant sur cette prédation qui atteint 200 à 500 brebis tuées par an, ce qui représente epsilon au niveau de la production des animaux en France.
Il existe des techniques pour prémunir son troupeau de ces attaques.
Alors, il en existe des techniques, il faut avouer qu'elles ne sont pas toutes très efficaces, à part les chiens de garde ou un berger qui suffisent, dans la quasi-totalité des cas, à faire fuir le prédateur partout dans le monde. Mais la population des ours s'attaque aussi à des brebis qui sont laissées souvent seules et sans gardien, ou alors qui sont trop exposées dans les vallées. Bon, il reste difficile de protéger des moutons domestiques, mais le problème économique est beaucoup plus vaste, et la concurrence capitaliste, le transport, avortement des brebis, mortalité des moutons est très très forte. Cette mortalité naturelle, entre guillemets, puisque c'est des élevages qui de toute façon vont les conduire à la mort à un moment donné, représente jusqu'à 22% des brebis. Alors que le prélèvement des ours, des loups, apparaissent complètement anecdotiques. On n'oublie pas que ça représente 0,08% du cheptel français de moutons. Donc c'est vraiment même pas 1% du cheptel français. Et les prélèvements donc des ours et des loups vont évidemment faire passer cela pour insupportable, ce qui est assez incompréhensible. L'agriculture biologique en petite ferme agricole ne concerne que 1% des élevages à peine pour les moutons. C'est bien davantage le modèle d'un élevage industriel, peu coûteux, en plus extensif, mais qui tolère aucun prédateur, et c'est ce modèle-là qui pose problème. Les animaux français sont si nombreux dans les alpages, et qui sont d'ailleurs élevés principalement pour l'export, alors que la plupart du temps, le mouton qu'on consomme vient de Nouvelle-Zélande. C'est complètement absurde.
C'est d'aberration.
C'est un tour du monde invraisemblable. Et l'agriculture française meurt d'abord de cette industrialisation. C'est à cause de la concurrence avec la Nouvelle-Zélande que les bergers français sont appelés à tuer des ours. On voit que ça n'a vraiment aucun sens. L'élevage extensif a envahi tout l'espace parce qu'il est plus facile à faire. Et puis, bien sûr, ça permet de laisser les moutons sans surveillance. on est passé de petits troupeaux d'une centaine de bêtes, souvent avec un berger dans les Pyrénées pauvres de l'époque, à des milliers de moutons, jusqu'à 200 000 moutons. L'occupation de l'espace montagnard est donc devenue totalement intense par des troupeaux immenses, avec un nombre de bergers infime. Il devrait plutôt renforcer les emplois agricoles, je pense. En tout cas, nombre de promeneurs sont victimes d'accidents avec des vaches ou avec des moutons qui divaguent dans les prairies. On compte plus de 20 à 25 accidents tous les ans de randonneurs qui sont victimes de vaches ou de moutons. Ou de béliers, hein, bien sûr. Mais et les randonneurs vont pas exiger la disparition des animaux domestiques, alors que c'est pourtant beaucoup plus dangereux que les ours dans les montagnes. On voit que la présence de l'ours dans les espaces sauvages n'est simplement qu'un seul problème, un problème de tolérance de la nature, de la faune sauvage, et donc de compréhension de l'écologie globale et de l'écologie évolutive.
Pourtant, l'ours est accusé de commettre des dégâts et même des attaques de bergers ou de chasseurs.
Oui, et c'est un peu paradoxal de voir que c'est quand même souvent les humains les mieux armés qui vont nous décrire des attaques. Bon, le plus souvent, il suffit qu'un éleveur identifie des traces d'ours, de poils, de griffures, pour clamer tout de suite sa crainte et faire du bruit autour de cette aventure. Après, on n'attend plus que une confrontation directe. Alors, quand une femelle essaye de se sortir de la surprise d'une rencontre pour protéger ses oursons, le discours est rapidement agressif. On prétend que l'ours attaque, alors qu'en fait, elle ne fait que défendre les petits. Les choses changent quand les ours trouvent des sources de nourriture auprès des humains. L'ours est omnivore, mais un peu carnivore. Alors, il peut fréquenter des secteurs où les humains ont abandonné la nourriture, des sandwichs, des pique-niques, des déchets alimentaires. Mais aussi là où ils ont abandonné des cadavres de moutons ou de chèvres. Sur ces lieux-là, l'ours va se tailler la place principale devant les loups ou les renards, parce qu'il est quand même beaucoup plus puissant qu'eux, devant un animal mort. Alors, devant l'homme, l'ours a aussi appris à jouer des mécaniques pour s'emparer de la nourriture. Et la confrontation a pu s'avérer violente dans le passé. Mais dans la grande majorité des cas, l'ours préfère toujours la fuite au risque d'être blessé.
Est-ce que cela se passe aussi ailleurs ?
Oui, puisque les ours bruns occupent de nombreux pays. Donc certaines populations comprennent des centaines d'individus dans la population, comme par exemple en Russie ou aux États-Unis. Mais l'ours y reste aussi un animal chassé. Et nombre d'entre eux subissent cette recherche de trophées. Persécuté, l'ours apprend donc à se défendre. Et dans ces zones, des accidents peuvent se dérouler. L'ours est un grand animal, très puissant, et bien des touristes ont appris, après une charge inoffensive le plus souvent, que ces animaux ne sont pas de tendres peluches. On a même vu des ours s'attaquer réellement à des humains, pour les chasser d'un secteur de tranquillité. Souvent, une ours femelle qui veut envoyer les humains plus loin. Mais cela reste assez rare, parce que dans les zones où la pêche au saumon, par exemple, où il y a des centaines d'ours qui se rassemblent, eh bien, les observateurs se rassemblent aussi, et peuvent s'approcher très près des animaux sauvages, sans ne susciter aucun combat. De plus, l'ours brun n'est pas actif toute l'année. À la fin de l'automne et au début du printemps, il s'installe dans une tanière où il va passer la mauvaise saison en dormant, hibernant en moitié. C'est un sommeil léger pendant plusieurs semaines, mais il a quand même une activité ralentie. En même temps, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas sérieux de ne pas respecter la distance de fuite entre humains et ours, car comme tous les autres animaux, cela signifie forcément une agression. Même un chevreuil risque de vous charger si vous êtes dans sa zone de confort. Alors un ours qui est encore plus sûr de sa puissance, il va évidemment déstabiliser la personne et il ne va pas hésiter à vous faire des guerres pires. Évidemment, il ne sait pas si vous êtes armé d'un fusil.
Mais en Roumanie, par exemple, la chasse de l'ours est légale encore aujourd'hui ?
Oui, la chasse est encore légale dans de nombreux pays. Il y a des chasseurs qui viennent faire ça de manière tout à fait légale. En Europe, en Roumanie, la pratique du nourrissage des ours va aussi contribuer à dynamiser les populations. On nourrit les ours soi-disant pour établir les liens entre les populations occidentales balkaniques et les lignées les plus orientales. Mais évidemment, autour de ces nourrissages d'ours, on peut aussi organiser des chasses. Alors, en 1989, à la chute du dictateur de Roumanie, il y aurait eu encore 8000 ours bruns en Roumanie. Mais selon les autorités, maintenant on a à peu près 6000 ours depuis l'ouverture de la chasse. On pense que c'est une surestimation et la plupart des spécialistes évoquent entre 3 et 4000 ours. Dans ce pays, il faut bien penser que la libéralisation et la corruption a eu des conséquences très graves sur la conservation de l'espèce oursine. Si 300 ours sont légalement autorisés à être tués tous les ans, on pense qu'avec le braconnage, on va jusqu'à tuer 500 à 600 ours tous les ans. Les Roumains avant affichaient une grande bienveillance à l'égard des ours, mais ils font preuve aujourd'hui d'une opposition populaire croissante, en raison de la recrudescence d'attaques d'ours sur les troupeaux et des charges sur les humains qui sont de plus en plus nombreux dans ces mêmes espaces. Par ailleurs, la déforestation, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande déforestation illégale, notamment en Roumanie, où on coupe des grands chênes pour faire nos planchers. Et puis le surpâturage, avec l'élevage des moutons et d'autres animaux, vont évidemment réduire complètement la quantité de places disponibles pour les ours. Le pays reste pourtant un lieu de tourisme d'observation des ours, de même que dans la plupart des Balkans.
La pression reste donc continue sur les ours, mais un tel animal a-t-il encore sa place dans le monde marchand ?
Alors là, c'est bien la vraie question. Dans l'état actuel, les chercheurs concluent que l'ours pourrait vivre en toute tranquillité sur environ 1 million de kilomètres carrés du territoire de l'Union européenne. Mais il n'occupe même pas 30% de cet habitat. Bien évidemment, il ne s'agit pas de favoriser la reconquête de tout l'espace où l'ours pourrait prospérer. Il s'agit seulement de l'étendre dans un rayon d'environ 50 km pour qu'il y ait des continuités entre les territoires qu'il occupe, en particulier dans la chaîne pyrénéo-alpine et les Carpates, le Nord, les monts de la Scandinavie par exemple. Mais les territoires qu'il pourrait et devrait recoloniser pour établir une stabilité sont surtout des zones couloirs. Voilà le problème. Ce sont des zones entre deux zones à ours. Donc son habitat est beaucoup trop morcelé et donc il empêche les rencontres. Et les ressources sont beaucoup trop éparpillées, trop faibles pour que ces ours puissent survivre avec ses battues et tous les autres dérangements administratifs qu'il peut subir. Donc, si on restitue des connexions entre les isolats de population, on pourrait offrir aux ours une meilleure chance de se rétablir. Mais c'est quasiment la seule condition.
Par conséquent, tu préfères que l'ours étende ses territoires entre deux populations plutôt que de leur réserver des espaces protégés ?
Oui, leur réserver des espaces protégés, c'est un peu comme mettre des intérêts à côté des qui sont touchés au capital. La reconstitution des zones boisées et des espaces naturels suppose que les territoires brisent d'abord leur isolement. La modification des paysages et les aménagements des routes, des parkings, des secteurs boueux et imperméables, l'assèchement des zones humides, les activités de loisirs en montagne, pensez à toutes ces étendues qui sont complètement privées, tout cela va émietter l'espace de la faune sauvage et des ours en particulier, ce qui les refoule toujours davantage vers des secteurs encore un peu préservés, mais le morcellement des paysages est ce qui détruit le plus la biodiversité. Une vraie conservation de la biodiversité ne peut pas être faite au mode capitaliste dans des réserves qui vont isoler des populations beaucoup trop petites et après on va dire il y a trop d'éléphants dans telle réserve, il y a trop d'ours dans telle réserve, il faut en tuer. Ça n'a évidemment aucun sens. La conservation des ours et des grands carnivores, surtout auprès des populations humaines, suppose qu'ils aient des proies, des aliments et un grand espace. Et donc il faut évidemment que auprès des populations humaines dans le monde rural, on puisse réglementer et la chasse, bien sûr, et puis réglementer les battues d'une manière beaucoup plus drastique. Parce que faire des battues à sangliers pour tuer des ours, c'est quand même pas la bonne solution. De même, il faut se pencher sur le problème de ces élevages. Beaucoup trop industriels, extensifs, industriels, enfin tout ce qu'il y a de pire, alors qu'il n'y a que 20% d'élevage biologique. Même dans les Pyrénées françaises, le bétail et les moutons sont aussi réintroduits dans des espaces historiquement libérés par la destruction des ours. Maintenant qu'il n'y a plus d'ours à tel et tel endroit, on remet des moutons et des vaches ou des chevaux sauvages dans ces espaces.
Mais les oppositions influencent beaucoup les politiques et les habitants ruraux restent parfois peu enclins à ne pas exploiter industriellement la nature. L'ours, pour eux, doit être confiné.
Ah ben bien sûr, dès qu'on a remis des moutons ou des chevaux ou d'autres bovins dans un coin, on peut toujours dire « Ah ben maintenant, ils les attaquent ».
Mais oui, donc,
c'est assez facile.
L'espace.
Le problème de la réintroduction, c'est qu'il faut que l'espace soit restauré. Toutes les recherches qui sont menées sur la conservation de la nature ont souligné ce problème de l'isolement des populations. La fragmentation ou l'enfermement des populations dans des parcs ne résout évidemment ni les destructions de la nature, ni ne permet vraiment une reproduction naturelle, évidemment. On ne peut pas conseiller autre chose que de réparer les trous qu'il y a dans la nature. Il faut donc rétablir la connexion entre des habitats sauvegardés, et en faisant admettre que la politique des réserves, elle échoue, puisqu'elle couvre forcément des petits espaces, et des espaces confinés. Cette politique des réserves est issue du capitalisme marchand, il faut le rappeler, qui garde du patrimoine d'un côté en organisant l'exploitation marchande de l'autre. Cette idée-là est donc totalement capitaliste, elle ne fonctionne pas, parce que la nature, au contraire, a besoin de réseaux. Toutes les espèces dépendent les unes des autres. Et nous, les humains, on a compris qu'on dépendait également de toute la nature, de la moindre abeille et évidemment de la moindre présence d'un ours.
Alors, comment envisager l'avenir avec les grands animaux en France ?
Alors, en 2013, le Muséum national d'histoire naturelle, commandé par le ministère de l'écologie, a rendu trois conclusions majeures. C'est dans un rapport. L'ours brun n'a écologiquement aucun impact négatif sur l'écosystème pyrénéen, faune comme flore. Il a donc toute sa place. Deuxièmement, l'état de conservation d'espace est défavorable au regard de tous les critères fixés par la directive Habitat et par la biologie. Et troisièmement, la non-intervention maximise les risques encourus pour le maintien d'espèces dans les Pyrénées, puisqu'elle cumule à la fois des risques démographiques et des risques génétiques pour les deux noyaux de la toute petite population des Pyrénées. Alors il est par conséquent plus que jamais nécessaire de poursuivre le renforcement de la population, et pour ça il faut favoriser la mise en place de moyens beaucoup plus innovants. On peut citer par exemple les travaux d'enrichissement de la forêt en ressources alimentaires avec des arbres à fruits, des myrtilliers. L'idée étant de fournir suffisamment de nourriture dans des espaces forestiers beaucoup trop exploités par l'humain, de manière à ce que les ours ne viennent pas s'attaquer à des bêtes qui sont dans des prairies et des zones de pâturage.
Oh baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be,
oh let him be,
your old teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Oh, baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let it be
your teddy bear. Oh, let me be,
oh, let it be your teddy bear.
I just wanna be your.
Nous écoutions Teddy Bear par Elvis Presley.
Présent dans la faune française depuis des milliers d'années, l'ours brun est un animal phare, endémique des Pyrénées. Mais c'est encore un rescapé à l'avenir très incertain. Sauvegarder une espèce aussi emblématique paraît de plus en plus difficile. Encore que ne sera conservée que la moitié du patrimoine pyrénéen, puisque Canelito est le seul ours de sang mêlé qui possède la demi-génétique de la population originale. Mais il faut restaurer la vie sauvage et les ours doivent y avoir leur place, à moins de préférer la folie d'une survie désertée de toute notre faune, résignée à la solitude, à la vie séparée de tout par le monde marchand. Restaurer les grands prédateurs, c'est aussi offrir en cascade toute l'écologie au monde. Ainsi vont bien d'autres espèces sauvages sur notre terre. Et cependant, la seule solution possible reste de vivre ensemble et avec elle, au milieu de tout le vivant. Car il ne suffira pas de sauvegarder les petits bouts de notre planète, ni de croire naïvement peupler une autre planète Terre. Non, l'évolution du vivant est une écologie où chacun dépend des autres. Une écologie libertaire qu'il nous faudra engager simplement parce que notre Terre est merveilleuse et que vivre libre est son cadeau.
Auditrices, auditeurs intrépides, nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier, et nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Loudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Brassens, tant qu'il y a des Pyrénées.
Frappez le gros Mussolini, même avec un macaroni, le Romain qui jouait à ça se voyait privé de pizza. Après le Frente Popular, l'Hidalgo non capitulaire, qui sa visette d'ironiette mourait au son des castagnettes. J'ai construit Franco, la guitare en bataille, durant pas mal d'années, durant pas mal d'années. Faut dire qu'entre nous deux, simple petit détail, y avait les Pyrénées, y avait avait les Pyrénées, qui crachait sur la croix gammée, dans une mine était sommé de descendre extraire du sel pour assaisonner les bretzels. Avant que son jour ne décline, qui s'élevait contre Staline, filait Manu Militari au sport d'hiver en Sibérie. J'ai conspué Franco, la guitare en bataille, durant pas mal d'années, durant pas mal d'années. Faut dire qu'entre nous deux, simple petit détail, y avait les Pyrénées, y avait les Pyrénées. Aux quatre coins du monde encore, qui se lève et crie pas d'accord, en un tournemain se fait couper le sifflet, tordre le cou. Dans mon village, on peut à l'heure qu'il est sans risque de malheur brandir son drapeau, quel qu'il soit, mais jusque à quand qu'il osa. J'ai conspué Franco, la guitare en bataille, durant pas mal d'années, durant pas mal d'années. Faut dire qu'entre nous deux, simple petit détail, y avait les Pyrénées, y avait les Pyrénées. S'engager par le mot, trois couplets, un refrain, par le biais du micro, par le biais du micro. Ça se fait sur une jambe et ça n'engage à rien, et peut rapporter gros, et peut rapporter gros.